frères et sœurs, imaginez une communauté chrétienne composée de personnes d'origine bien différentes, ayant des cultures différentes, n'ayant pas une seule manière de penser et de vivre leur foi en Jésus. Une communauté composée de personnes venant d'horizons différents. Bien entendu, il y aura des Bretons, mais aussi des Normands, des Gersois, des Vendéens, des Africains, des Asiatiques, des Américains, etc. Imaginez une communauté de frères et de sœurs qui, riche de ces différences, cherche à vivre l'évangile du Christ dans la paix, dans la joie, dans la confiance. Certains que Jésus est présent et les accompagne dans leur vie. On peut imaginer que dans cette communauté, il y ait une harmonie, un peu comme dans un orchestre composé de nombreux instruments qui poussent des notes mélodieuses, des accords beaux à entendre, et je dirais même à voir. Et puis voilà. Un jour, la zizanie s'installe dans cette communauté chrétienne. Une zizanie provoquée par des chrétiens qui vont chercher à imposer à d'autres chrétiens un mode de vie, une règle de vie qu'ils pensent meilleure pour répondre à leur vocation de baptiser. À Antioche, il s'agit de chrétiens issus du judaïsme qui affirment que pour être sauvés, il faut respecter et vivre de la loi de Moïse. Une loi qui implique de respecter de nombreuses pratiques et de nombreuses règles que les chrétiens issus du monde païen n'ont pas envie de suivre. Pour autant, dans cette histoire, tous cherchent à vivre pleinement en harmonie avec Jésus. Alors qui a raison ? Faut-il d'abord devenir un fervent et fidèle pratiquant de la loi de Moïse avant d'être chrétien? Qui peut alors se reconnaître comme chrétien? Peut-on imaginer que Dieu nous mette comme condition pour être sauvé le respect intégral de la loi? Je crains alors que peu soient sauvés. Dans le psaume que nous venons d'entendre, il y a un mot qui revient très souvent, c'est le mot « grâce ». Or, la grâce désigne la bienveillance absolument gratuite que de toute éternité, Dieu témoigne à l'homme en l'appelant à partager sa propre vie. C'est l'intimité avec le Dieu de Jésus-Christ, donnée par le baptême et renouvelée par les sacrements. C'est par grâce que Dieu nous sauve. Les premiers versets du psaume nous font penser à ce très beau passage du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Que de bénédictions dans ces quelques versets. Dieu se donne. Il se fait chaque proche de chacun d'eux. Il veut donner à chacun sa paix, sa joie. Il veut bénir chacun de nous. Il espère chacun de nous. Oui, nous sommes invités à laisser entrer Dieu dans nos vies, dans nos projets, nos constructions, notre travail, nos familles, pour que tous ces lieux soient la Jérusalem nouvelle, la cité sainte, la demeure de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui, nous dit Jésus dans l'évangile de Jean. Aimer, apprendre à aimer, se laisser enseigner par cet amour, par l'Esprit Saint, pour en vivre. Voilà l'essentiel. Dieu nous invite à entrer dans le mystère de l'amour trinitaire, à entrer dans cette communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous sommes invités à être illuminés par la présence du Seigneur. Pour ma part, j'aime beaucoup l'icône de la Trinité de Roublev. On y voit Jésus, le Père et l'Esprit Saint. Et j'aime voir le regard tourné vers l'autre et qui circule de l'un à l'autre. J'aime imaginer aussi la parole qui circule entre eux. On y voit aussi la coupe posée sur la table au centre de la Trinité et la main de Jésus tendue vers cette coupe. Sous la coupe, on voit un rectangle qui symbolise toute l'humanité. J'aime voir qu'il y a de la place à cette table, frères et sœurs, pour toute l'humanité. Chacun de nous est invité à cette table. Chacun est invité à vivre la communion fondée sur l'union à Dieu, sur l'unité des trois personnes de la Trinité. On peut aussi voir, imaginer sur cette icône, puisqu'elle n'est pas dessinée, une croix dont l'axe vertical traverse d'abord l'humanité, puis qui traverse ensuite la coupe, qui rappelle le don de Jésus pour chacun de nous, pour que nous soyons sauvés, qui passe par le cœur de Jésus pour rejoindre l'arbre de vie. Regardons aussi le bois transversal de la croix, qui repose sur les épaules du Père et de l'Esprit Saint, et qui transperce le cœur de Jésus. C'est la Trinité, la communion parfaite, qui se donne pour que nous soyons sauvés. Dans quelques minutes, nous allons communier au corps du Christ. L'Eucharistie est le témoignage du don total de Jésus, le témoignage par excellence de l'amour. Communier au corps du Christ, c'est entrer dans le mystère pascal, c'est partager la vie du Christ, devenir ce qu'il est, c'est trouver sa place dans son corps mystique. L'Eucharistie constitue l'animant divin, capable de créer et de restaurer l'unité des disciples du Christ. Alors, tout à l'heure, en avançant pour recevoir le corps du Christ, écoutons Jésus nous dire : Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et laissons-nous enseigner par l'Esprit Saint pour que chaque jour nous apprenions à aimer davantage comme Jésus.